VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 5 janvier 2018. En direct de Washington, Eric Manirakiza et Michel Joseph. Bienvenue dans cette édition dont voici d'abord le sommaire.
L'église catholique congolaise multiplie ses critiques contre Joseph Kabila.
Interpellation d'une soixantaine de commerçants tchadiens en Guinée équatoriale.
Au Soudan du Sud, les rebelles et les troupes gouvernementales s'affrontent de nouveau. Plusieurs morts sont signalées.
Recensement biométrique des déplacés de Boko Haram au Niger.
L'objectif, c'est d'abord maîtriser les chiffres. Parce que depuis un certain temps, il y avait beaucoup de difficultés relatives aux chiffres.
Cette opération se déroule à Difa.
Pas de mouvement entre le Cameroun et la Guinée équatoriale.
Depuis qu'on a fermé la chaîne, depuis le 24, j'ai tout mangé l'argent. J'ai fui pour partir au village. J'ai beaucoup les dettes, je vais faire comment?
La frontière est fermée depuis 2 semaines.
Publication d'un livre explosif sur la présidence de Donald Trump dès aujourd'hui vendredi.
Et discussion mardi prochain entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, les premières depuis 2015.
Pour l'instant, le journal.
L'Église catholique en RDC a poursuivi hier ses attaques contre le régime du président Kabila en dénonçant les brutalités policières. C'était au cours d'une messe à Kinshasa, 4 jours après une marche de catholiques sévèrement réprimée. Anastasie Tudiash.
Officiellement, l'office célébrait la mémoire des martyrs du 4 janvier 1959, victimes de l'administration coloniale belge qui avait interdit et réprimé une manifestation, épisode fondateur de l'indépendance du 30 juin 1960. Ces martyrs de l'indépendance rappellent les morts d'aujourd'hui qui ont subi les brutalités policières, a estimé l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo. Il s'exprimait en la cathédrale Notre-Dame du Congo, pleine à craquer, avec au premier rang 2 des principaux opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, passé à l'opposition. Étaient également présents des activistes du mouvement citoyen Congolais Debout. Cela doit nous renforcer dans notre conviction que c'est le début de la fin de la dictature dans notre pays, a déclaré M. Kamerhe, ajoutant « d'autres actions doivent absolument suivre très rapidement ».
Anastasie Tudiesh, une soixantaine de commerçants tchadiens ont été interpellés ces derniers jours en Guinée équatoriale. Ces arrestations ont suivi l'annonce par le gouvernement d'un coup d'état déjoué, n'est-ce pas, Abdulrahman Dia?
55 commerçants étaient détenus hier à Malabo, 9 à Mongomo et d'autres à Ebeine. L'information a été donnée par l'ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale, Paul Nahari Ngarianan. Selon une source au ministère des Affaires étrangères tchadien, certains ont été libérés après une audience du ministre tchadien des Affaires étrangères, Mohamed Zen Sherif, avec le président Teodoro Obiangema, hier soir à Malabo. Le chef de la diplomatie tchadienne a déclaré que cette tentative de coup d'État est une menace sérieuse de déstabilisation qui concerne toute la sous-région d'Afrique centrale. Quelques heures plus tôt, la Guinée équatoriale avait accusé un groupe de mercenaires étrangers, en majorité des Tchadiens, mais aussi des Soudanais et des Centrafricains, à la solde de partis de l'opposition radicale, d'avoir voulu attaquer le chef de l'État le 24 décembre dernier. Ils ont été arrêtés le 27 décembre au Cameroun, selon des sources camerounaises. Selon l'AFP, un Tchadien, Mamad Kodobani, présenté comme le cerveau de l'opération, a été arrêté à Douala, au Cameroun, fin décembre.
Les Nations Unies vont envoyer un émissaire en Guinée équatoriale après que les autorités de ce pays riche en pétrole aient affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État par des mercenaires étrangers.
L'Union nationale des magistrats du Bénin a appelé hier ses membres à cesser le travail pour 5 jours à partir du 8 janvier. Cet appel a aussitôt suscité des inquiétudes dans les tribunaux de Cotonou où beaucoup s'inquiètent d'une nouvelle paralysie du système judiciaire. Le 28 décembre dernier, le Parlement a adopté une loi controversée qui exclut notamment du droit de grève militaires, gendarmes, policiers, ainsi que les personnels de la santé et de la justice.
Au Nigeria, des hommes armés suspectés d'appartenir à des groupes criminels organisés ont tué 7 personnes hier dans le sud-est, crime commis quelques jours après une fusillade à la sortie d'une église qui avait fait 16 morts.
Au Soudan du Sud, des affrontements entre l'armée gouvernementale et les forces rebelles ont fait plusieurs morts dans l'état de Yei River. Il s'agit des dernières violations en date de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a 2 semaines. Les précisions de Lionel Gahima.
En début de semaine, les membres de la Troïka, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, avaient adressé une sévère mise en garde aux chefs militaires de partis en conflit, les sommant de respecter l'accord de cessation des hostilités signé le 21 décembre à Addis Abeba par le gouvernement sud-soudanais et les groupes rebelles. Les affrontements de l'état de Yei River mettent aux prises les troupes gouvernementales et les rebelles, loyaux à l'ancien premier vice-président Riek Machar. Selon le porte-parole militaire sud-soudanais, le général Lou Rai, les combattants de Machar ont attaqué des positions de l'armée dans les villes de Morobo, Bazi et Yondu. 5 ont été tués, a-t-il précisé. Les rebelles, par la voix de leur porte-parole, le colonel Lam Gabriel, soutiennent avoir répondu à une offensive des soldats gouvernementaux à Yondu. 7 rebelles et soldats gouvernementaux ont péri dans ces combats, a indiqué le colonel Lam Gabriel. Les deux camps assurent malgré tout qu'ils ont décidé d'honorer le cessez-le-feu et que tous les chefs militaires ont eu pour instruction d'arrêter les combats et de permettre la libre circulation des civils et de l'aide humanitaire.
Le parquet algérien a ouvert une enquête sur la mort suspecte d'un migrant algérien dans un centre de rétention en Espagne. Alger veut pousser les autorités espagnoles de faire le nécessaire pour déterminer les causes exactes de la mort du migrant.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord a accepté de dialoguer avec la Corée du Sud mardi prochain. Les discussions auront lieu à Panmunjom, un village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée. Les détails de Jean-Roger Billon.
Séoul a fait savoir que ces discussions porteraient notamment sur les Jeux Olympiques de Pyeongchang qui se tiennent du 9 au 25 février et sur la question de l'amélioration des relations intercoréennes. Ce dialogue intervient après 2 années de dégradation du climat sur la péninsule au cours desquelles la Corée du Nord a mené 3 essais nucléaires et multiplié les essais de missiles. Elle affirme aujourd'hui avoir atteint son objectif militaire en se dotant de la capacité de menacer du feu nucléaire l'ensemble du territoire continental américain. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est servi lundi de son adresse du Nouvel An à la Nation pour tendre la main en direction du Sud. Séoul a répondu en proposant la tenue de cette rencontre le 9 janvier. Depuis 2015, elles sont les premières discussions de haut niveau à Panmunjom. Les deux Corées ont dès lors remis en service mercredi leur liaison téléphonique qui était coupée depuis 2016, continuant à jouer l'ouverture malgré l'ironie du président américain Donald Trump qui s'était vanté d'avoir un bouton nucléaire beaucoup plus gros que celui de Kim Jong-un. Washington et Séoul ont d'ailleurs convenu hier soir de reporter leur manœuvre militaire prévue pendant les Jeux Olympiques dans un signe d'apaisement envers le régime nord-coréen.
Des dizaines de milliers de personnes sont privées d'électricité ici aux États-Unis. Une tempête de neige a balayé la côte est. Aéroport paralysé à New York, inondations glacées à Boston. Les autorités redoutaient désormais une chute des températures qui pourrait aggraver la situation.
Et la vente du livre explosif de Michael Wolff sur la Maison-Blanche Trump, initialement prévue mardi prochain, a été avancée à aujourd'hui, vendredi. Malgré les tentatives vaines de Donald Trump pour en empêcher la sortie, ce livre dresse le sombre tableau d'une Maison Blanche dysfonctionnelle sur fond d'intrigue autour d'un Donald Trump rayé par ses propres collaborateurs pour son incompétence et son incapacité à diriger. Ceci a provoqué la colère du locataire de la Maison Blanche.
De nouveaux rassemblements pro-régime ont été organisés hier en Iran au lendemain de l'annonce par le pouvoir de la fin du mouvement de contestation et de son intention de recentrer l'attention sur les revendications économiques des protestataires.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est reçu aujourd'hui à Paris par son homologue Emmanuel Macron pour discuter de la Syrie, de l'Europe, mais aussi de la question sensible des droits de l'homme en Turquie.
2018 démarre sur un nouveau bain de sang en Afghanistan. Un kamikaze a déclenché une bombe hier soir à proximité de policiers et de manifestants à Kaboul, faisant au moins 11 morts et 25 blessés.
Arzuma Compaoré avec vous pour la Minute Éco. Mise en place d'un fonds de financement mixte de 100 millions de dollars dédié à l'énergie hors réseau. Dans un communiqué de la BAD publié le 4 janvier, cette dernière affirme que l'objectif de ce fonds est à la fois d'accélérer l'accès à une énergie propre et d'attirer des investisseurs locaux comme co-prêteurs. Un focus initial ira sur l'Afrique de l'Est, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Le fonds sera chargé d'octroyer des prêts à la fois en devise forte et en monnaie locale pour des entreprises de production d'énergie hors réseau. 300 dinars par mois, environ 100 euros, c'est le montant que les Tunisiens devront débourser par foyer pour faire face aux hausses de prix, une situation provoquée par l'entrée en vigueur de la loi de finances 2018 qui prévoyait une importante majoration de la TVA. Avec l'entrée en vigueur de la loi de finances 2018, une majoration de la taxe à la valeur ajoutée allant de 2% jusqu'à 300% selon les produits est devenue effective et provoque une importante hausse des prix. L'Angola prévoit de faire flotter librement sa monnaie. José de Lima Massano, gouverneur de la Banque centrale, a annoncé mercredi le projet de faire flotter le kwanza, arrimé actuellement au dollar, au cours de 166 pour un billet vert. Le kwanza se négociait mercredi à plus de 400 par dollar sur le marché noir. De 20 milliards de dollars en début 2017, les réserves de change ont fondu de façon continue, passant de 15,4 milliards en octobre à 14,2 milliards en novembre, révèle Bloomberg.
Et dans votre page des sports, vous retrouvez Nicolas Pinot. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous.
On commence par le football. Mohamed Salah, sacré meilleur joueur africain.
The winner is Mohamed Salah.
Et oui, l'Égyptien récompensé hier soir au Ghana par la Confédération africaine de football du trophée du Ballon d'Or africain 2017. Mohamed Salah, joueur de Liverpool, devance son coéquipier, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund. Âgé de 25 ans, Salah, attaquant de feu, est actuellement deuxième meilleur buteur de la Premier League anglaise. On l'écoute après la remise hier soir de son trophée à Accra.
Winning this award is a dream come true.
Gagner ce trophée, c'est un rêve devenu réalité. 2017 a été une année incroyable pour moi. J'ai vécu des choses fantastiques avec l'équipe nationale, des moments incroyables et difficiles pour se qualifier pour la Coupe du Monde après 28 ans d'absence. J'ai aussi connu des moments super en club avec Rome et Liverpool.
Mohamed Salah, Ballon d'Or africain 2017, hier soir à Accra.
Et ce n'est pas tout, Nicolas. La CAF a décerné d'autres récompenses pour le football africain, n'est-ce pas?
Eh bien, le football égyptien est encore à l'honneur, puisqu'Hector Cooper, le sélectionneur argentin des Pharaons, a reçu le trophée du meilleur entraîneur 2017. Le Wydad Athletic Club de Casablanca, sacré meilleure équipe 2017 après son titre en Ligue des Champions. Quant à l'Ivoirien Paxson Daka, il est désigné meilleur espoir. Enfin, la meilleure joueuse africaine de l'année. Le titre revient à la Nigériane, Assissat Oshoala.
Et bientôt, le Bénin aura un nouveau sélectionneur.
Oui, la fédération béninoise qui va proposer trois noms au ministère des Sports à Cotonou. Alain Girès, Michel Dussuyer et Pierre-André Sherman. Girès est libre depuis sa démission de son poste de sélectionneur du Mali en septembre dernier. Dussuyer est également disponible après son expérience avortée à la tête de la Côte d'Ivoire. On rappelle que le Bénin n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde 2018. Les écureuils qui seront opposés lors des éliminatoires de la CAN 2019 à l'Algérie, au Togo et à la Gambie. Allez Eric, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain, les résultats de la nuit.
Golden State a remporté, Nico, le match sommet de la conférence Ouest sur le parquet de Houston Rockets 124 contre 5. Les champions NBA en titre ont décroché leur 31e victoire en 39 matchs et ont consolidé leur statut de meilleure équipe du championnat 2017-2018. Oklahoma City a battu la Clippers 127-117 et le joueur vedette de Milwaukee, Giannis, est en tête dans le All-Star Game 2018 et devance la superstar de Cleveland, LeBron James, qui a déjà participé à 13 éditions du All-Star Game à l'Ouest. Kevin Durant de Golden State devant son coéquipier Stephen Curry et la star de Houston, James Harden. Cette consultation, Nico, c'est une consultation publique, opposera les meilleurs joueurs NBA le 18 février à Los Angeles, en Californie. Et c'est tout pour l'espoir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Maniakiza, pour développer les dossiers du jour. Au Niger, le gouvernement a décidé de procéder à un recensement biométrique de plus de 250 000 personnes qui ont fui les atrocités de Boko Haram et vivant depuis 3 ans dans la région de Diffa. Cette démarche vise à maîtriser leur nombre pour faciliter une intervention plus efficace des structures humanitaires en leur faveur. L'opération a démarré et se poursuit, comme a pu le constater notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, qui s'est rendu sur les lieux.
Sur le site de Assaga, un des 3 centres hors camp sur lesquels se déroule l'opération depuis novembre 2017, l'affluence est grande. Avec ses 3 enfants, Malam Chefou, originaire d'un village du Nigeria, a pu se faire un chemin pour pouvoir accéder au premier stand où son statut de réfugié, de retourné ou de déplacé est déterminé à la suite d'un long interrogatoire. Il passe ensuite au stand protection tenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Nafissa Moussa, du bureau HCR d'IFA.
Ce qu'on fait à notre niveau, c'est la protection. Donc, des personnes à besoins spécifiques. Et prioriser les gens qui sont des handicapés, les vieillards, les femmes seules.
Madame Chefou passera ensuite dans 8 autres stands avant d'être en possession de ces documents importants pour ses chefs de famille.
Avec la carte, je peux voyager d'un état à l'autre sans problème. Nous sommes vraiment contents. Que Dieu récompense les initiateurs.
Cette opération de recensement est supervisée par la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié, Amas Suleiman Elhaj, et administrateur adjoint au niveau de cette commission.
Quand le réfugié vient ici, il ne va sortir qu'avec ses documents complets, son attestation, sa carte d'identité des réfugiés, tout. L'objectif, c'est d'abord maîtriser les chiffres. Parce que depuis un certain temps, il y avait beaucoup de difficultés relatives aux chiffres. Donc après cette opération, ce problème ne va plus se poser.
Au-delà de la maîtrise du nombre de personnes en mouvement due à la situation sécuritaire, l'opération vise également un meilleur suivi de l'aide à apporter à ces populations vulnérables, selon le directeur régional de l'état civil des migrations et des réfugiés de Diffa, Oumarou Boubacar.
Avec le recensement biométrique, nous connaissons qui êtes-vous. Qu'est-ce que vous faites et où êtes-vous? Ce qui va nous permettre de bien maîtriser et ces populations-là, et même pour y compris pour l'assistance, parce que même s'ils se déplacent d'un site à un autre, on peut les référer à travers ce recensement biométrique. Donc il n'y aura plus de fraudes qui sont habituées à ça.
Aide et assistance, c'est justement ce qu'attendent la plupart des chefs de ménage venus pour se faire enregistrer à l'occasion de cette opération.
J'ai reçu ma carte, c'est bien, mais je veux plus parce que nous souffrons ici. On a besoin de nourriture et de faire des petites activités génératrices de revenus.
Selon la direction régionale de l'état civil de Diffa, à la mi-décembre 2017, plus de 37 000 personnes ont été recensées à la biométrie. Abdulrazak Idrissa, de retour de Diffa pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, un véritable bras de fer se prépare entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Un projet de rabattement des salaires des fonctionnaires civils et militaires tchadiens est en cours. Réaction des différents responsables des syndicats des travailleurs du Tchad dans ce reportage signé André Kodimajinga.
S'il y a un sujet qui fait l'unanimité dans les quartiers généraux des différentes centrales syndicales en ce début d'année, c'est bien évidemment ce projet de rabattement de salaire, lequel projet est en étude sur la table du nouveau ministre des Finances Abdoulaye Sabre Fadoul, considéré comme l'initiateur de 16 mesures d'austérité par les travailleurs. Le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad et membre de la plateforme syndicale revendicative Gounou Vaima Ganfare explique comment l'État entend couper les salaires des fonctionnaires.
Ils ont commencé par le SMIC, où ils prennent 5%, de 60 à 100 000, 15%, de 100 à 200, 20%, de 200 à 300, 25%, de 300 à 400, 30%, de 400 à 500, 35%, de 500 à 1 million, 40%, et supérieur à 1 million, 45%. Pour le personnel diplomatique, inférieur à 500 000, 5%, égal ou supérieur à 500 000, 10%. Et pour le personnel de forces de défense et de sécurité, inférieur ou égal à 100 000, 5% et supérieur à 100 000, 10%.
Pour le président du comité technique chargé du dialogue social Ali Abbas Cheiti, c'est pour répondre aux exigences des partenaires financiers, notamment le FMI, que l'État envisage faire cet abattement. Le secrétaire général du syndicat national des agents des finances du Tchad, Ngaudom Mouiba, met en garde le gouvernement de ces agissements.
Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les droits d'assises de 18% de téléphonie mobile et compagnie? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les ressources locales quand les partenaires en développent? Comment nous ont pris en charge sur le plan salarial un gouvernement responsable qui transforme la mendicité en système de gouvernement, ça ne marche pas. Nous allons gérer la rue.
Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SINES n'entend pas avaler ses couleuvres. Mahamat Nour Ahmad Roufaï est le secrétaire général du SINES.
Nous avons rejeté en bloc ces projets fallacieux. Nous avons notre stratégie de barrer la route à ce projet-là. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive.
Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad CLTT, Ibrahim Ben Seyd, accusé par ses camarades syndicalistes de faire le jeu du pouvoir dans ce genre de lutte, sort de son silence.
Aujourd'hui, le gouvernement paye des gens non fonctionnaires, décrétés plus de 10 000 personnes. Nous sommes catégoriques et nous ne voulons pas qu'on touche nos salaires. C'est une autre forme d'esclavage. Les salaires, là, c'est sacré.
Si les deux parties, gouvernement et partenaires sociaux, ne mettent pas de l'eau dans leur vin, l'année 2018 risque d'être mouvementée sur tous les plans. André Kodimadingar Ndjamena pour VOA.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est fermée depuis bientôt 2 semaines. C'est à la suite de la tentative de coup d'État présumé contre le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema. Cette fermeture pénalise notamment les commerçants et leurs affaires sont paralysées. Suivez le compte-rendu de Moki Edwin Kinzeka que vous présente John Lyndon.
C'est une atmosphère relativement calme ici à Kiossi, une ville du sud du Cameroun aux frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est un point de passage des produits agricoles, boissons et autres marchandises transportées par camion à destination des pays voisins. Mais l'homme d'affaires camerounais Fidèle Kemnier affirme que ses activités sont à l'arrêt depuis la fermeture de la frontière et lui-même est resté coincé en Guinée équatoriale pendant près de 2 semaines.
Nous sommes partis au travail le 24 décembre. À notre retour vers 16h, nous avons trouvé que les Guinéens avaient mis des barrières. Donc on croyait que comme c'est des affaires habituelles, ils le font souvent, que ça devait passer. Mais depuis ce 24, nous ne sommes plus rentrés jusqu'à aujourd'hui.
Falamo Fatouma, femme d'affaires équato-guinéenne, affirme, elle, que la fermeture de la frontière l'empêche de faire des livraisons.
Depuis qu'on a fermé la chaîne, depuis le 24, j'ai tout mangé l'argent. J'ai fui pour partir au village. J'ai beaucoup de dettes, je vais faire comment?
Le 29 décembre dernier, la Guinée équatoriale a déclaré avoir arrêté des personnes à la frontière en possession de lance-roquettes, de fusils et d'un stock de munitions. Malabo a déclaré que les personnes arrêtées avaient l'intention de déstabiliser le gouvernement du président Teodoro Obiang au pouvoir depuis 1979 et qui est le plus ancien président en exercice en Afrique. Le Cameroun a déclaré avoir arrêté 40 hommes lourdement armés à la frontière et a renforcé la sécurité le long de la frontière de 290 km. Félix Ngelengele, gouverneur de la région du Sud Cameroun, a laissé entendre que les Camerounais devraient être vigilants car les soldats sont là pour assurer leur sécurité en cas d'attaque.
Le commandant d'armes de la place a pris des mesures pour que les forces soient sur le terrain et contrôlent les mouvements à la frontière. Et je pense que en ce moment, le dispositif de surveillance a été levé d'un cran. Les forces sont en alerte et on peut rassurer les populations que la situation est sous contrôle.
Le président Obiang, 75 ans, a été élu pour un cinquième mandat de 7 ans en 2016 durant des élections truquées en sa faveur selon l'opposition. Son pays est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne, mais une grande partie de ses 1,2 million d'habitants vivent dans la pauvreté. Le leader équato-guinéen a déclaré qu'une guerre se préparait contre son régime, prétendument en raison de sa longévité au pouvoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Aux États-Unis, le président Donald Trump s'en prend à son ex-conseiller Steve Bannon, l'accusant d'avoir perdu la raison. Le chef de la Maison-Blanche contre-attaque aux extraits d'un livre à paraître la semaine prochaine, mais dont l'apparition a été écourtée. C'est aujourd'hui qu'on peut accéder à ce livre qui incrimine le fils aîné du président d'avoir commis une trahison en rencontrant une avocate russe qui prétendait détenir des informations pouvant nuire Hillary Clinton. Ce rebondissement semble marquer une rupture entre Donald Trump et son collaborateur clé de la campagne électorale 2016. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint le professeur de sciences politiques à l'université Georgetown, Jean-François Seznec.
Il est certain que Donald Trump doit être très très fâché, mais je pense que ce qui est très symptomatique ici, c'est qu'il y a la cassure entre Bannon et Trump qui est très importante. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Bannon a pris cette position tout d'un coup. Et ça, je pense que c'est ça qui signifie beaucoup de choses. C'est pas un bon signe pour la présidence de Trump.
Quelle nouvelle ligne de fracture, finalement, cela révèle-t-il, en fait, cette cassure entre Donald Trump et Steve Bannon?
Trump perd sa base, et perdant sa base droite, son extrême droite, et il a déjà bien sûr perdu son extrême gauche, alors c'est pas un très bon signe, mais Steve Bannon, en fait, prépare l'ère post-Trump. Il est très aimé par peut-être 20% de la population qui écoute ses nouvelles sur Bright Park News, qui croit ce qu'il dit tout le temps. Et maintenant, lui, Bannon, a perdu beaucoup de crédibilité vis-à-vis de cette base, parce que Trump ne suit pas forcément les politiques que Bannon voudrait qu'il suive. Bannon, en plus, a dû comprendre et décider que Trump lui-même, maintenant, ne sera peut-être plus au pouvoir pendant très, très, très longtemps. Et donc, il est en train de préparer l'ère après Trump.
Quel genre d'autres questions cela peut-il soulever à l'approche des primaires républicaines en vue des élections de mi-mandat, notamment cassure avec d'autres personnes éventuellement? Et selon vous, est-ce que vraiment on peut parler d'attaque sciemment calculée justement par rapport à ces élections?
Ah oui, certainement. Oui, certainement. Je pense que Bannon est en train de mettre ses candidats en place. Même si c'est des candidats purs et durs, ça ferait sans doute perdre le contrôle de l'Assemblée nationale. Les Républicains perdront sans doute ce contrôle parce que leurs candidats purs et durs ne plairont pas à la majorité d'abord des démocrates et à une grande partie des Républicains. Donc ils perdront une grande partie des sièges qu'ils ont, mais ils auront un noyau pur et dur à l'Assemblée qui préparera le futur, si vous voulez. Donc je pense que Bannon a décidé qu'ils avaient perdu une grande partie de leur crédibilité maintenant à cause de Trump, et que Trump va avoir des gros problèmes, soit directement, soit son fils, avec le procureur de la République. Donc il se prépare à avoir plusieurs années en minorité, en fait.
le politologue Jean-François Seznec. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jim Cook. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique, Eric Manilakiza à Washington. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Oui, chaque jour est une vie. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. À très bientôt.